Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de l'édition de ce jeudi 30 octobre qui sera largement consacrée à la PEC.
Donald Trump et Xi Jinping s'entretiennent à Busan. Séoul et Washington finalisent leur accord commercial. Et enfin, Lee Jae-myung s'entretient avec Mark Carney.
Le président américain et son homologue chinois se sont rencontrés pour la première fois en 6 ans, ce jeudi à Busan, en marge du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique qui s'ouvrira demain dans la ville avoisinante de Guangzhou. À cette occasion, Donald Trump a affirmé qu'il était honoré de retrouver un ami de longue date en qualifiant Xi Jinping de l'homme respecté et avec une grande dignité. Ce dernier, de son côté, a déclaré que la Chine était prête à coopérer avec les États-Unis et que les deux pays devaient être amis. Dans un point de presse informel tenu après le tête-à-tête à bord d'Air Force One, le locataire de la Maison Blanche a annoncé que Pékin avait accepté de prolonger d'un an la suspension des restrictions sur ses exportations de terres rares, d'unir ses efforts pour bloquer l'entrée du fentanyl aux États-Unis, ainsi que reprendre immédiatement les achats de produits agricoles américains, notamment du soja. En contrepartie, Washington réduira les droits de douane imposés sur les produits made in China de 20 à 10%. Le dirigeant américain a également indiqué qu'il se rendrait dans l'Empire du Milieu en avril prochain, tandis que Xi Jinping effectuerait ensuite une visite à Palm Beach ou à Washington. Bien que les deux parties soient parvenues à un accord sur plusieurs points, certains dossiers sensibles restent en suspens, comme le contrôle technologique américain et la question de Taïwan. Par ailleurs, Donald Trump a précisé qu'il n'avait pas eu le temps de discuter avec Kim Jong-un en raison d'un emploi du temps très chargé, mais qu'il reviendrait pour le rencontrer plus tard.
Le président américain a annoncé ce matin sur ses réseaux sociaux avoir approuvé la construction d'un sous-marin à propulsion nucléaire par la Corée du Sud. Il a précisé l'avoir autorisé pour remplacer ses modèles diesel qu'elle détient et que la fabrication se fera dans le chantier naval de Philadelphie aux États-Unis. Cette décision est une réponse immédiate à la demande de Lee Jae-myung formulée hier lors de leur sommet bilatéral à Gyeongju. Le chef de l'État sud-coréen avait sollicité la fourniture de combustible pour des sous-marins à propulsion nucléaire.
Et puis, la Corée du Sud et les États-Unis sont finalement parvenus à s'entendre sur les détails de leur accord commercial conclu en juillet, mettant un terme à des semaines de négociations laborieuses. Les discussions portaient principalement sur les investissements de 350 milliards de dollars sur le sol américain promis par Séoul. Lors de leur tête-à-tête hier à Gyeongju, en marge du sommet de la PEC, Lee Jae-myung et Donald Trump sont convenus que le pays du matin clair débloquerait 200 milliards de dollars en espèces pour des projets sur plusieurs années, sans dépasser toutefois 20 milliards de dollars par an. Un échelonnement voulu par Séoul pour prévenir la possible perturbation de son marché d'échange. Les 150 milliards restants seront consacrés à des investissements dans la construction navale. En ce qui concerne les bénéfices, les deux parties se sont mises d'accord pour les partager à part égale avant le recouvrement des investissements initiaux et pour ajuster ultérieurement ce ratio. En contrepartie, Washington a promis d'abaisser de 25 à 15% ses droits de douane sur les importations d'automobiles et de pièces détachées sud-coréennes. Un niveau identique à celui des tarifs imposés aux voitures japonaises et européennes. Il a également été décidé que le taux appliqué sur les semi-conducteurs produits phares d'exportation de la Corée du Sud ne serait pas désavantageux par rapport à son concurrent taïwanais. Le gouvernement de Lee Jae-myung s'est réjoui d'avoir pu éviter d'ouvrir davantage son marché aux produits agricoles américains, tout particulièrement le riz et la viande bovine. Il doit désormais préparer un projet de loi permettant de mettre en vigueur le pacte conclu hier.
Alors que Séoul et Washington ont finalisé leur accord commercial, les réactions des partis politiques divergent. Le Minju, le parti présidentiel, a salué un excellent résultat, estimant qu'il s'agit d'un modèle de négociation diplomatique et que le gouvernement a su transformer la crise en opportunité. Le chef de son groupe parlementaire a déclaré que cette entente permet à la fois de stabiliser le marché d'échange et de préserver la compétitivité des exportations. Selon Kim Byung-gi, la baisse à 15% des droits de douane sur les pièces automobiles constitue notamment également l'un des grands accomplissements. Il a également indiqué que la Corée du Sud a obtenu l'autorisation pour la construction d'un sous-marin à propulsion nucléaire, ce qui représente un double succès économique et sécuritaire. De son côté, le Parti du pouvoir du peuple a affirmé que l'accord a dissipé l'incertitude, mais a exprimé ses inquiétudes sur la charge économique. La principale force de l'opposition conservatrice a rappelé que l'investissement en espèces de 200 milliards de dollars représente 10 fois le montant annoncé par l'exécutif en juillet. Song Eun-sok a ajouté que la négociation avait été conclue dans un sens favorable aux États-Unis, en citant comme exemple la répartition des bénéfices à parts égales entre les deux pays.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Toujours à Gyeongju, le président de la République a rencontré aujourd'hui le premier ministre canadien en marge du sommet de l'APEC. Au cours de cet entretien, Lee Jae-myung a déclaré que les deux pays entretenaient une relation particulière, rappelant que le Canada envoyait 27 000 soldats lors de la guerre de Corée pour défendre la liberté de la République de Corée. Le chef de l'État a souligné que Séoul et Ottawa élargiront leur coopération économique et le domaine de la défense. Il a ajouté que les échanges culturels sont très dynamiques. Prenons par exemple le célèbre film d'animation K-pop Demon Hunters, réalisé par Maggie Gang, une Canadienne d'origine coréenne. De son côté, Mark Carney a affirmé que la Corée du Sud était un partenaire essentiel pour le Canada. Dans les secteurs de la défense, du commerce et de la culture, il a expliqué que cette année marque le 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de leur accord de libre-échange et que les liens économiques, militaires et culturels sont plus solides que jamais.
Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise se sont retrouvés hier à Gyeongju. La question de la péninsule coréenne, les préoccupations régionales ainsi que la coopération économique entre les trois pays ont été au cœur de leurs conversations. Le ministre sud-coréen a donné un sens profond à la présence de son homologue japonais qui a retrouvé son poste il y a une semaine. Choyon a proposé que les trois partenaires travaillent main dans la main pour renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement dans la région et pour faire face aux défis transnationaux dans la péninsule comme dans l'Indo-Pacifique. L'Américain Marco Rubio et Toshimitsu Motegi ont, pour leur part, affiché leur volonté de coopérer pour la paix, la stabilité et la prospérité régionale. Les trois hommes sont convenus de maintenir une collaboration étroite face aux menaces de Pyongyang et l'objectif commun de priver celui-ci de l'arme nucléaire.
Et pour terminer, plus de 2 580 000 étrangers vivaient en Corée du Sud en 2024, soit 5% de la population totale. Des chiffres communiqués aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur à l'issue d'une analyse des résultats du recensement démographique réalisé par l'Agence nationale des données et des statistiques. En détail, au 1er novembre 2024, 2 583 626 étrangers y résidaient depuis plus de 3 mois. Un record. La progression la plus forte a été enregistrée chez les étudiants devant les travailleurs. Sur le plan géographique, c'est la province de Gyeonggi, entourant Séoul, qui dénombre le plus grand nombre d'étrangers. Viennent ensuite la capitale et le Chungcheong du Sud. Autrement dit, 56,7% d'entre eux vivent à Séoul et dans sa région. Le ministère a promis d'œuvrer pour leur installation stable dans le pays en coopération entre le gouvernement et les collectivités locales.
C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oh Ha-young et Baptiste Mourial. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.